Suivez le guide, avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Pour cette seconde saison, laissez-vous encore porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine et de ses métiers. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve d'hier et d'aujourd'hui. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle, Laurent, à la régie. Après avoir présenté la rétrospective de la saison passée, Elisabeth, qu'avez-vous concocté pour la seconde saison de Suivez le guide ? Vers quel chemin nous menez-vous ?
Alors, pour cette seconde saison, nous avons opté pour l'invitation d'acteurs du territoire, de gens passionnés par le jardinage, par les plantes, par leur métier lié à l'embellissement des jardins, des parcs et au travail des plantes, en fait. Et notre volonté est de vous faire partager un moment d'intimité avec ces professionnels de la valorisation des plantes, des parcs et des jardins, publics ou privés d'ailleurs. Nous souhaitons aussi donner la parole à des jardiniers particuliers ou municipaux, tous passionnés par leur métier ou leur passe-temps. Ainsi, nous recevrons un obtenteur de roses. Lors de l'émission passée, eh bien, nous avons évoqué la tradition de rosiériste au XIXe siècle dans la région lyonnaise. Nous allons accueillir Jean-Pierre Guillot, qui appartient à une famille de rosiéristes de très longue date. Et c'est son arrière-grand-père, je crois, mais il le précisera lui-même, qui a créé la Rose France, la première rose hybride.
Oui, parce qu'il invente ou il crée de nouvelles roses.
Oui, voilà, c'est un inventeur de roses, un obtenteur de roses, en fait, à la retraite maintenant, mais toujours prêt à partager l'histoire de sa famille et sa passion pour la reine des fleurs. Et je pense qu'il nous dévoilera le secret de la création d'une rose. Il en a créé pour des personnes célèbres et il nous en parlera. Il nous parlera aussi de l'art de prendre soin des rosiers qui participent à l'embellissement de tant de parcs publics et privés dans notre région. Et lorsque nous avions évoqué cette tradition des roses en région Rhône-Alpes, nous avions indiqué qu'une promenade dans la roseraie ou dans la roseraie du parc de la Tête d'Or ou de la Bonne Maison étaient des promenades inoubliables au mois de juin, avec une débauche de couleurs, une manière aussi de voir les différentes familles de fleurs, leurs différences, et celles qui ont des parfums, celles qui n'en ont pas, les roses anciennes qui sont parfumées mais tellement éphémères parfois. Donc c'est toute cette approche du lieu, cette intimité avec le lieu que nous donnent ces professionnels et qui nous permet de passer un moment magique dans certains endroits de Lyon ou d'ailleurs. Nous aurons aussi un propriétaire de jardin partagé. Je ne l'ai pas repris la dernière fois dans notre...
dans la programmation ?
Non, quand on a fait le retour sur la précédente saison, la rétrospective, je ne l'ai pas repris, mais nous avions traité des jardins ouvriers, l'importance des jardins ouvriers dans l'histoire des jardins. Eh bien, on peut penser qu'aujourd'hui, l'esprit des jardins ouvriers, on le retrouve dans ces jardins partagés, très proche des jardins ouvriers dont nous avons déjà parlé, où il règne dans ces jardins sociaux, l'important, c'est le contact, c'est l'échange. Et c'est ça qui a motivé la démarche des propriétaires. C'est de ne pas être seul dans son jardin, mais de profiter, de créer du lien par les plantes, par la culture des plantes, d'échanger, de troquer des légumes ou des graines. Voilà, c'est toute une approche qui est tout à fait intéressante. Nous espérons aussi avoir un élagueur d'arbres. Alors, pourquoi un élagueur ? Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'en ai vu pratiquer leur métier, et en particulier dans des belles propriétés entourées de parcs aux arbres centenaires, mais qui atteignent des hauteurs impressionnantes. Quand il s'agit d'immenses cèdres bleus ou des séquoias, ou c'est vraiment impressionnant. Et là, eh bien, le travail demande à la fois des qualités de sportif, style encordé comme des guides de haute montagne, et à la fois une connaissance fine des essences pour un entretien régulier de l'arbre âgé, parfois plus que centenaire, très souvent. Donc, c'est cette alchimie entre ces savoir-faire qui m'a intéressée dans le travail d'un élagueur.
Oui, parce qu'autrement, on peut tuer l'arbre si on ne connaît rien, ou si on ne peut pas couper comme ça une tête.
Voilà, ça demande une connaissance des essences très particulière, très poussée. Et j'ai compris que le travail des élagueurs s'il était régulier, il n'était pas répétitif. À chaque arbre, une taille spécifique. Voilà. Et puis, un fleuriste, j'aimerais qu'un fleuriste vienne nous dévoiler quelques secrets sur l'art du bouquet ou la conservation des plantes. Parce que je pense que un fleuriste, c'est un véritable artiste et interprète du langage des fleurs à conseiller en fonction des saisons, des événements. C'est le détenteur de l'art de mettre des fleurs en bouquet. Il travaille des palettes de couleurs. Et j'avais envie de dire, il confie ses plantes et ses fleurs plus qu'il ne les vend. Il y a tellement de goût et de plaisir de faire son travail que, voilà, il y a une part émotionnelle qui me...
Oui, c'est pas uniquement commercial.
Voilà. Et puis un jardinier municipal, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir la dimension urbaine de l'art floral. Il est dépositaire d'un art floral urbain qui humanise la ville, qui valorise le patrimoine. Quand on met des ruines bien avec un bel entourage de parterres floraux, eh bien, je dis les ruines ou n'importe quelle autre, une vieille roue de pressoir ou autre, je veux dire, voilà, on est la fleur apporte beaucoup. Il anime certains quartiers en conjuguant des éléments naturels. Il officialise une entrée de ville ou un jardin public ou un hôtel de ville.
Oui, parce que c'est l'œil. Il est vrai que quand je rentre dans une commune, tout de suite on voit si il y a une profusion de plantes et comment elles sont plantées et à quels endroits. On fait attention à cela.
Et puis il y a des changements de mode. À l'heure actuelle, on est beaucoup plus avec des fleurs qui sont un peu qui très souples, fines, qui donnent plus où on travaille le mouvement en même temps que le parterre, c'est vraiment intéressant. Et parfois, eh bien, on entre dans une ville et c'est le blason de la ville qui est composé avec des fleurs et marié à un jet d'eau. Enfin, il y a tout un art de faire du florissement urbain.
Mmh. Oui, c'est intéressant. C'est d'avoir le regard là-dessus.
The only thing, it's plenty of baby, dream a while, scheme a while, sure to find happiness, and I guess all the things you pine for. Gee, I like to see you looking swell, baby, love baby, until that lucky day, you know darn well.
Couleur FM 97.1, suivez le guide avec Elisabeth. Nous sommes dans la programmation de la saison 2017-2018, en rêve et en réalité. En hommage à notre guide Elisabeth et toutes les guides qui nous offrent un regard éclairé sur les choses à voir, je vous ai fait écouter Rose Murphy dans « I can't give you anything but love » de l'album « Ladies in Blue », reprenant les chansons des années 1934 à 1954. Parce que bien souvent, Elisabeth, lorsque l'on parle de guide, ici j'ai spécialement parlé de guide au féminin, mais il y a les guides masculins aussi, et certains sont formidables et ont aussi la même passion. Mais quand on propose de guide, on n'est pas toujours enclin à accepter un guide et quand on les suit, on a tout à fait un éclairage très particulier et une vision des choses que l'on n'aurait pas, que ce soit pour la peinture, que ce soit pour un site archéologique ou patrimoine. C'est très frappant et je ne sais pas comment vous ressentez ce métier de guide. Justement, faut-il se faire reconnaître ou ça vient tout naturellement?
Alors, tout d'abord, je pense que la visite guidée a changé au fil des années. Quand j'étais jeune et que mes parents étaient passionnés de culture et on prenait des visites guidées, et parfois elles étaient très stéréotypées, presque chantantes, c'était un peu... voilà. Maintenant, la visite guidée est passionnante. Je pense que c'est la meilleure formule pour apprendre le plus de choses en un minimum de temps. Quand on n'a pas énormément de temps dans une ville, par exemple, En tout cas, en début de visite, c'est très intéressant parce qu'après, on peut revenir soi-même sur des points, sur des endroits qu'on a appréciés. Pour moi, la visite guidée, c'est vraiment un regard, une manière de présenter les choses personnelle, comme si j'écrivais une lettre à quelqu'un. Pour moi, c'est un peu ça. J'aime bien travailler par thématique. C'est vraiment ma manière de travailler. Et je mets l'homme au centre de mon commentaire. Ça, c'est les quelques années que j'ai passées à l'Écomusée Nord-Dauphiné avec des ethnologues. Ça a changé complètement ma manière de guider que j'avais en particulier sur la place parisienne, où les choses sont plus officialisées en quelque sorte. Et les attentes sont plus classiques aussi. Alors que lorsqu'on guide et qu'on a envie de transmettre, on est des passeurs d'histoire, des passeurs de regard en même temps. C'est ça, c'est vraiment s'inscrire dans le lieu, en ressentir des choses, des éléments pas forcément visibles à l'œil nu. Et j'aime donner des clés de lecture. L'idée, pour moi, bien sûr, c'est de transmettre, mais surtout donner aux gens la possibilité de retrouver ces clés de lecture sur d'autres
lieux,
d'autres sites, et de lire par eux-mêmes avec ces clés-là. Et là, j'estime que si ça se passe, je ne le sais pas tout le temps, je ne le sais parfois même jamais, mais si ça se passe, je pense que pour moi, j'ai réussi.
Oui, parce que c'est vrai que pour un guidage, il y a derrière ce guidage énormément de lectures qui ont été faites, et puis ça, une macération et un résumé pour arriver au cœur de ce qu'on veut faire passer, que peut-être moi, le touriste, je n'aurai jamais le temps ou l'occasion de lire tout ce qu'il y a à lire sur un site, sur un tableau, et donc on gagne énormément de temps de recevoir ces clés-là.
Recevoir, mais donner aussi, parce que moi, j'aime vraiment quand c'est interactif, quand la personne apporte sa propre vision des choses ou ses propres réflexions, parce que ensuite je m'en sers pour d'autres guidages, pour donner chair aux informations, voilà, en disant, j'ai rencontré un ancien tisseur qui m'a dit ça, et voilà ce qu'il m'a dit. Et les gens sont contents de cette transmission de regard, de cet échange de regard sur un patrimoine. C'est presque lui donner une seconde vie. Voilà, avec la marche du temps, eh bien, il y a des gens qui, avec leur regard inscrit dans l'actualité, qui aujourd'hui se voient les choses autrement, mais de manière intéressante, très intéressante.
Et ce sont ces témoignages-là que vous essayez justement d'apporter pour cette émission de cette saison.
Voilà, et ce que je veux vous dire, c'est que je suis ravie que cette deuxième saison, on ait des interlocuteurs, parce que c'est vraiment ce côté interactif qui est donner la parole aux gens qui, souvent dans des associations un peu méconnues ou dans des jobs un peu méconnus, n'ont pas l'occasion de dire, de transmettre leur savoir-faire et de dire, voilà, et pour eux-mêmes, c'est intéressant que les autres portent un regard sur ce qu'ils ont fait. C'est pas, même si c'est sur de l'urbain, au quotidien, eh bien, il y a des massifs qui sont particulièrement jolis à certaines saisons. Et ben, je pense que ça leur fait plaisir si on le leur dit, c'est sûr.
Et c'est aussi ce que vous avez retenu de la saison passée, lorsque vous avez reçu, donc, en fin de saison, Louis Fournier, qui présentait l'aventure des Galoches. Vous l'avez reçu ici, et c'était un bonheur pour vous à raconter son musée à Virieux et la Galoche. Et puis quand on l'écoute, on est dedans.
Ah oui, complètement, voilà. Complètement. Donc, et je pense que les auditeurs auront vraiment tout loisir d'écouter ces professionnels et ces passionnés de jardins, de plantes, de légumes.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams too dry. Now man is born to go a-loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around.
Toujours sur Couleur FM 97.1, suivez le guide avec Elisabeth pour la saison 2017-2018, toujours du même album de musique. Nous venons d'entendre Peggy Lee dans Black Coffee. Continuons la prospection pour cette saison, Elisabeth, vos envies personnelles.
Eh bien, mes envies personnelles, je pense que entendre un pépiniériste horticulteur serait une bonne chose. Celui que j'ai contacté est d'accord, donc on l'entendra avec plaisir. Évidemment, ce sont des fournisseurs conseils, techniciens conseils pour les plantes. Il veille à l'approvisionnement en plantes pour répondre aux demandes publiques et privées en fonction des demandes, en fonction des saisons, des événements, des modes aussi, voilà. Ils sont là pour avoir des quantités suffisantes aussi pour justement de la décoration urbaine, du florissement urbain qui parfois doit être un peu plus soutenu qu'à d'autres moments. Et bien que, en général, les services municipaux ont souvent leur propre pépinière, si je puis dire, parfois. Je ne sais pas si sur Bourgoin, c'est le cas. Un autre intervenant qui sera très intéressant à écouter, c'est les propriétaires de la ferme du Regardin au Mautier, qui sont les propriétaires qui ont fait de la ferme du Regardin un lieu riche d'enseignements et de ressources en termes de connaissances historiques sur les plantes, de culture ou plutôt de permaculture, autour de l'usage des plantes culinaires, médicinales, ornementales. Il y a un jardin pédagogique, il y a une... d'après ce que je connais, il y a vraiment énormément d'animation et de manière d'apprécier la culture des plantes, leur usage de façon ludique, attractive, dans des lieux improbables, aller chercher des plantes dans l'ornementation des églises, ou que ce soit au niveau des vitraux ou d'ailleurs, et de comprendre, d'avoir la plante après en réel dans le jardin, de voir, voilà. Je trouve que tout ça est très original et je suis ravie de recevoir ces personnes. Et une viticultrice. Et oui, la culture de la vigne, c'est important. Elle a relevé la tradition de Saint-Savin de produire du vin avec appellation des Balmes dauphinoises. C'est le domaine de Grand-Joux-Loup. Un travail technique qui prend en compte la nature du sol, les conditions météorologiques, la production du vin et sa conservation, la mise en bouteille, la commercialisation. Autant d'étapes de la plante au produit, fruit d'un savoir-faire complètement maîtrisé. Vraiment.
On ne s'improvise pas.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Et en même temps, elle prolonge une tradition qui fait que, voilà, le village continue à vivre avec ces vignes en fond de paysage et c'est toute l'activité qui en découle. Alors, nous irons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous irons ou nous recevrons, je ne sais pas encore, un distillateur. Nous irons, nous tenterons de percer les secrets de l'alambic de ce dernier distillateur local, alors que la région, comme je le disais, de Bourgoin-Jallieu en a compté plus d'une dizaine au XIXe siècle. Et je ne me répéterai pas, mais effectivement, la richesse de l'écosystème local était très importante. Enfin, on essayera, moi je vais essayer demain d'aller voir sur le marché le vendeur de verveine auquel ma maman achetait de la verveine. Et je pense que les grands-parents achetaient la verveine aussi. C'est un monsieur qui est sur les marchés. Qui est sur les marchés depuis très longtemps, ici à Bourgoin et à la Croix-Rousse. De père en fils, ils ont fait cette vente de verveine et d'autres plantes à un certain moment. Et pour moi, je dirais que c'est un peu un colporteur contemporain qui serait là sur un marché du 21e siècle et vantant les bienfaits d'une plante. Je parle de la verveine parce que je crois qu'on lui prenait que ça, mais il en avait d'autres. Et ceci de père en fils depuis plus de 100 ans. Voilà.
Oh là là, avec toute la richesse que ça comporte, passer justement l'héritage de père en fils.
Oui, alors je l'ai fait beaucoup parler, mais maintenant il faut que j'aille lui demander s'il veut être enregistré. Voilà, en tout cas, on a de bons moments à passer avec des gens passionnant.
Voilà, merci beaucoup Elisabeth et puis avec impatience à la prochaine émission. Merci beaucoup, merci à vous qui nous écoutez et merci Laurent à la régie pour tout ce suivi.